Bien plus qu'une radio, Radio Plus, vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un grand peintre de l'art flamand. Alors, quand on parle de l'art flamand, il y a tout de suite deux noms, évidemment, qui viennent à notre idée. C'est Bruegels et Rubens, bien sûr. L'un et l'autre ont particulièrement marqué leur période, l'âge d'or artistique de la Flandre. Nous avons d'ailleurs déjà évoqué ces deux peintres et que vous pouvez d'ailleurs retrouver les émissions sur le site podcast de Radio Plus pour bien sûr réécouter ces émissions, donc rubrique L'Heure Flamande. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer un artiste peintre que j'affectionne particulièrement, Anton van Dyck. Il n'a pas vécu longtemps, malheureusement, le pauvre. Il est mort, il n'avait qu'à peine 42 ans. Mais que d'œuvres il nous a laissées, et que de beauté aussi. Car bien sûr, ce n'est pas tant la quantité ici qui prime, mais bien sûr la qualité. Et Van Dyck était un peintre qui a su allier quantité et qualité. Alors donc, nous allons essayer au cours de cette émission donc de vous faire découvrir ce peintre flamand hors norme.
Ik zou er alles aan doen om mee aan wand te pappen. Vertel dat verlangens, terwijl dat we hangen. Ik zal aan mijn ogen toe en open armen ontvangen. Ik rokte niet thuis, moet er bij mij komen crashen. Maar ik moet komen trashen, ik zal haar kleren wel wassen. De vrouw van de naart, aan mijn hemel apart. En kom de gaten laat thuis en ik geen bezwaar. Ik heb geen bezwaar en dan ga ik solo kom dalen. En die neven niks Xbox, die zal ik wel betalen.
Hou wat ik je vraag, honey. Spend het maar, honey. All the chicks on the side.
Traf van begrip, maar dat is oké, want dat is gewoon zo boeit aan mij. Al wat dat gaat wilt, dat zal ik doen, en maar ontdoen van mijn fatsoen. Ik stop met feesten en drinken met andere jongens aan pappen. Ik kon er met kappen, ik koop een paar hoge hakken. Zodat we samen hand in hand over het straat kunnen stappen. Hombaat is de notto, sixpack beer. Ik onderdruk mijn emoties, we kunnen voetbal zien. Als het offside is, zal ik doen of dat ik weet wat dat offside is. En offside is?
Ik blaas aan tot het moment dat ga. Besef dat ga verliefd zijn op hij en hij. Je zet hem aan de maan. Wat ik wil doen is met plezier erbij.
En die van ons zal wij gewoon niet kraken of blijven zagen. Vragen over wie eten gaan maken. Romantisch in één keer is de pita goed. Zolang is dat gaan nooit de nafas doen.
Dan weet ik in zingen allemaal, dat gaat de man van mijn leven. Ze wilde gaan bij mij en dan zin ik de queen. En dan zit er gaat de king en dan geef ik haar bling bling. Ga moet de boss zijn, niks in de slaven. Altijd in de shadow, want dat heeft aan onze flauw skin. Altijd on nothing, first and the last. And like as Barry White, zit er gaan maar everything.
Schone jongen, ga de ga niet mee met mij. Naar ons, het zal de moeite zijn.
Venez d'entendre Schöne Junge, un hymne à la jeunesse, en fait, aux jeunes hommes. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc un peintre flamand, Anton van Dyck. Anton van Dyck est né le 22 mars 1599 à Anvers. Il est le septième enfant d'une fratrie de 12. Son père, Frans, est marié à Maria Kuipers. C'est une famille très riche, commerçant de tissus et tout particulièrement de soieries. Il côtoie donc évidemment ce qu'on appelle le beau monde, le monde aisé. Et d'ailleurs, naturellement, ce réseau va servir naturellement plus tard à notre artiste Anton. Sa mère, Maria Kuipers, est une femme très douée pour la broderie en particulier. Elle est réputée à Anvers pour la qualité de son travail. Et naturellement, le jeune Anton, eh bien, il est séduit par le travail de sa maman et certainement que c'est elle qui a un petit peu initié son fils au dessin, au travail de précision, au goût artistique, à la création artistique. Et d'ailleurs, c'est dès l'âge de 4 ans, dit-on, qu'il compose déjà des très beaux tableaux remarquables. Alors, bien sûr, son père, lui, ben, tout bon flamand, il ne voit pas ça particulièrement d'un bon œil. Il espère que son fils, eh bien, il va exercer un vrai métier, comme il dit, qui soit moins aléatoire que celui de peintre. Il veut, bien sûr, l'initier au métier de commerçant de tissus en particulier. Mais son fils, Anton, eh bien, persiste dans son goût pour la peinture, pour les arts, et naturellement, eh bien, en définitive, le père finit par céder et bien sûr aussi remarquer que son fils a beaucoup de talent. Et c'est ainsi qu'il va l'inscrire comme apprenti chez Hendrik van Balen de la Guilde de Saint-Luc à Anvers. Il a alors que 10 ans. Anton, malheureusement, va perdre sa maman quelques années plus tôt puisqu'il n'a que 8 ans quand sa mère disparaît. Anton van Dyck confirme très vite sa maîtrise de la peinture. Ses professeurs sont particulièrement admiratifs, voire déroutés de voir tant de talents chez un enfant de 10 ans. L'apprentissage qui est prévu pour une durée entre 6 et 12 ans, selon bien sûr les capacités de l'apprenti, eh bien lui, très vite, il va présenter ses premières œuvres à la Guilde de Saint-Luc dès l'âge de 15 ans. Et comme il aura, donc c'est une épreuve hein, qui est soumise devant ses pairs et grâce à la qualité de son travail, eh bien, il aura le droit de fonder son propre atelier avec son ami Jan Bruegels. C'est du jamais vu en Flandre de voir un si jeune artiste déjà pouvoir créer son propre atelier dès l'âge de 15 ans.
Oh, sexy ladies. Oh, sexy ladies. vaak bezongen. Ze zijn die streling voor het oog. Ik zou niet kunnen kiezen, dus hou ik ze allemaal, allemaal. Oh, oh, oh.
J'écoute Radio Plus sur 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc dans cette émission L'heure flamande le peintre flamand Anton van Dyck. Alors Anton van Dyck, c'est un jeune artiste plein de talent, puisque dès 15 ans, il a eu l'autorisation de ses maîtres de créer son propre atelier avec son ami Jan Bruegels. C'était du jamais vu en Flandre, un gamin en fait, pouvoir s'installer comme ça et créer son propre atelier. Et c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, puisque à l'âge de 19 ans, il obtient le titre de maître de la guilde de Saint-Luc. La guilde de Saint-Luc était particulièrement réputée à Anvers, et il obtient donc ce titre le 11 février 1618. Il a, Anton van Dyck, déjà une solide réputation, aussi bien dans le milieu artistique anversois, mais aussi dans l'ensemble des Pays-Bas. Et il collabore très vite avec un autre artiste de référence, Pierre-Paul Rubens. C'est pas n'importe qui, évidemment, comme vous le savez. Alors, compte tenu de ses talents, il devient même un des collaborateurs les plus proches de ce grand maître qu'est Rubens. D'ailleurs, Rubens parle de lui comme étant le meilleur. Il faut rappeler que l'atelier de Rubens était vraiment la référence absolue de la peinture flamande. C'était aussi un grand centre culturel très prisé par de nombreuses, non seulement la bourgeoisie anversoise, mais aussi, je vous rappelle, Anvers est un port déjà cosmopolite. Et évidemment, il a des relations aussi bien en Angleterre qu'en Italie, en France. C'est vraiment donc un centre culturel de première importance. Van Dyck, d'ailleurs, Van Dyck est sollicité pour réaliser 39 peintures d'un plafond commandé donc à Rubens. Et donc c'est Van Dyck qui va se charger de faire plusieurs tableaux, des tableaux pour orner donc une église de l'ordre des Jésuites. Nous sommes alors en 1620, c'est la pleine époque de la contre-réforme. Les Pays-Bas ont été scindés en deux parties, puisqu'il y a la partie nord qui est devenue une région indépendante par rapport à la couronne d'Espagne, du fait de son opposition avec le protestantisme, et les Pays-Bas du sud, donc Pays-Bas, qui sont Pays-Bas espagnols, et où là les autorités religieuses et politiques en particulier, bien sûr sous l'impulsion du roi d'Espagne, mettent en place une politique bien sûr pour reconquérir les âmes à la fois catholiques. Rubens, comme Jordaens d'ailleurs, vont bien sûr participer à l'élaboration de nombreux tableaux religieux. Van Dyck, naturellement, travaillant pour Rubens, va aussi travailler dans le cadre de pour orner donc ces églises dans le cadre de la contre-réforme. Van Dyck est très attiré aussi par la représentation des visages, et il se dirige comme protestantiste. Hors pair, il aime particulièrement représenter les émotions exprimées sur les visages, comme par exemple quand il peint un tableau avec la représentation des 12 apôtres, et en particulier ce visage de Saint-Pierre qui se repent après avoir déclaré ne pas connaître le Christ lorsque celui-ci se fait arrêter pour être jugé. C'est donc un homme d'une grande sensibilité, et naturellement il va se faire remarquer en particulier par sa qualité de travail en tant que portraitiste.
je al genoeg? Aan een woord, aan een glimlach, een groet. Een vriend die om je geeft, je begrijpt en je fouten vergeeft. Ja, soms verlies je de moed en stelt het leven je weer op de proef. Dan zal ik er zijn, want ook die dagen gaan weer voorbij. Ik hou van het leven, samen alles geven, niet stil te blijven staan, maar door te gaan. Duizend kleine dingen, die herinneringen, blijven toch bestaan. Dus kom maar. Soms lijkt het zo ver weg, het geluk niet voor jou weggelegd. Kijk dan eens om je heen, je zal zien, het overkomt iedereen. De tijd brengt je weer hoop, geeft je weer dromen waardoor je gelooft. De zon die 's morgens weer schijnt, alles klaart op en het verdriet dat verdwijnt. Ik hou van het leven, samen alles geven, niet stil te blijven staan, maar door te gaan. Duizend kleine dingen, die herinneringen, blijven toch bestaan. Dus kom maar. Op een dag, dan heb je genoeg. Je geeft een woord, een glimlach, een groet. Aan iemand waar je om geeft, ben je de vriend die een ander vergeeft. Ik hou van het leven, samen alles geven. Niet stil te blijven staan, maar door te gaan. Duizend kleine dingen, die herinneringen, blijven toch bestaan. Dus kom maar, ik hou van het leven, samen alles geven. Niet stil te blijven staan, maar door te gaan. Duizend kleine dingen, die herinneringen, blijven toch bestaan. Dus kom maar.
Luc Steno, vous chantez « Ik hou van het leven, j'aime la vie ». Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc le peintre flamand Anton van Dyck. Anton van Dyck, eh bien, sa réputation, bien sûr, a largement dépassé les murs de Anvers et même des Pays-Bas, puisque la cour d'Angleterre, eh bien, demande à lui offre la possibilité de travailler. Et donc, il va rejoindre la cour de Londres et rejoindre le roi Jacques Ier. Il restera d'ailleurs en Angleterre pendant quelques mois. Il vit en particulier à Londres. Il est hébergé par le comte d'Arundel, qui deviendra d'ailleurs un véritable ami. Et Van Dyck est particulièrement séduit par l'Angleterre, et d'ailleurs il va tisser de nombreux liens qui vont lui servir encore quelques années plus tard. Il est vraiment bien reçu par le roi Jacques Ier, même si on dit qu'il ne l'a jamais rencontré physiquement. En tout cas, l'accueil a été merveilleux et il en garde un souvenir superbe. Mais néanmoins, il va pas rester longtemps, puisqu'il revient à Anvers dès fin 1621 pour très vite partir cette fois vers l'Italie. Alors l'Italie, eh bien, à l'époque, c'était comme la Flandre, des centres artistiques particulièrement réputés, hein, la Flandre et l'Italie du Nord en particulier, on a une des plus grandes réputations à travers toute l'Europe pour la qualité de leur travail. Anvers, Turin, Florence, Bruges, Milan, Gand, voilà, c'était des cités très riches, riches par leur commerce bien sûr, mais aussi par leur vie intellectuelle particulièrement dense, et naturellement ces cités étaient l'objet bien sûr d'attention des artistes pour non seulement se créer leur propre réseau, se faire connaître, se créer tout ce lien de ce réseau, comme on dit aujourd'hui. Il s'installe donc à Gênes, chez des amis flamandes qui sont installés donc dans Gênes. Alors Gênes, à l'époque, était vraiment une cité particulièrement puissante, très riche. Il va d'ailleurs rester en Italie pendant 6 ans. C'est en Italie qu'il va d'ailleurs de plus en plus se perfectionner dans l'art du portrait. Il va bien sûr avoir de nombreuses commandes de la part des nobles, des bourgeois. Il va voyager d'ailleurs un petit peu partout en Italie. Ainsi, par exemple, il va s'arrêter à Milan, à Venise, à Florence, à Rome bien sûr. Il sera d'ailleurs hébergé par le cardinal Bentivoglio. Il va travailler d'ailleurs beaucoup pour lui. On le surnomme d'ailleurs en Italie le beau chevalier. C'est-à-dire que Anton van Dyck devait avoir un physique plutôt avantageux. Il va servir de guide à la comtesse d'Arundel, dont le mari l'avait hébergé quand il avait séjourné donc à Londres. Il va faire découvrir à cette dame bien sûr la ville de Milan, Turin en particulier. Malheureusement, pendant son séjour là-bas en Italie, il va perdre son père. Alors, on est en 1622. Est-ce qu'il a fait le voyage pour assister aux funérailles de son père? Là, on n'a pas d'affirmation. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas le téléphone portable non plus. On était en décembre, puisqu'il est décédé le 1er décembre, en 1622. Donc, on peut imaginer que, vu les conditions des routes aussi, mais aussi voyager beaucoup, bien sûr, par voie maritime, il est fort probable qu'il n'a pas pu assister donc aux funérailles de son père. En juillet 1625, il débarque à Marseille pour rencontrer le correspondant de Rubens qui est installé donc dans cette cité. Il va même en profiter pour visiter la ville de Aix-en-Provence. C'est tout ce réseau de peintres. Et là encore, on voit que c'est un petit peu comme des comptoirs. Les peintres flamands essaient bien sûr de tout simplement vendre aussi leurs tableaux, se faire connaître. Et ils ont ainsi dans plusieurs villes, en particulier donc des villes commerçantes comme Marseille, comme Gênes, Turin, bien sûr, ils ont leur comptoir pour faire valoir leur travail. Il va quitter l'Italie pour retourner à Anvers. Nous sommes en 1627.
Koffer klaar. Routine en toch raar, telkens weer wat gestaar. Een kus vertrekken maar, elke keer als jij me achterlaat. Voor het werk voel ik mij belangen niet zo sterk. Afstand nemen hoort erbij, leegte die nooit went. Al die tijd voel ik dat jij zoveel voor me bent. Zonder jou ontwaak ik veel te snel. Je bent er en je lacht, mooi in beeld, zelfs online. Zie jij wel wat er scheelt? Ook bij jou lijkt alles ongewoon. Zonder mij nog een week dan lig je weer naast mij. Afstand nemen hoort erbij, leegte die nooit went. Al die tijd voel ik dat jij zoveel voor me bent. Zonder jou ontwaak ik veel te snel.
Vous interprétez Zonder Jou, sans toi. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc le peintre flamand Anton van Dyck. Anton van Dyck, donc, après un séjour de 6 ans en Italie, il a traversé maintes villes d'Italie, villes réputées comme Turin, Rome, bien entendu, Palerme en Sicile. Il quitte l'Italie, donc, après ce séjour de 6 ans, pour rejoindre Anvers en fin 1627. Peu de temps après son retour, d'ailleurs, il devait apprendre le décès de sa sœur Cornelia, qui décède le 18 septembre. Il en est particulièrement affecté. Il continue à recevoir de très nombreuses commandes, en particulier de portraits. Il a une vie aussi très mondaine. C'est un homme courtois qui n'hésite pas, dit-on, à jouer un peu de son charme. Il est plutôt bel homme, comme on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, les Italiens l'avaient surnommé le beau chevalier. On dit qu'il a eu une maîtresse dont il a eu un enfant, une petite fille. C'est un homme donc qui se laisse, bien sûr, qui est beau, qui le sait, qui est riche aussi, hein, et ça doit pas être négligeable. Et il a son réseau, bien sûr, important, qui lui permet de recevoir de très nombreuses commandes. Ça ne l'empêche pas aussi de travailler, en particulier pour les ordres religieux, avec en particulier, bien sûr, la création de retables qui ornent les églises, dans cet esprit donc de l'église de la contre-réforme, pour donc reconquérir les âmes à la fois catholiques. On en trouve, bien sûr, des retables aussi en Flandre française, hein, n'hésitez pas, il y a d'ailleurs une association qui est chargée de la mise en valeur de ces fameux retables qui sont de toute beauté. Si Van Dyck, avec sa réputation, il est nommé par l'infante Isabelle, qui gère donc les Pays-Bas espagnols, peintre de Sa Majesté, Van Dyck, pour autant, ne va pas quitter Anvers pour vivre à Bruxelles. Il préfère vivre dans sa ville natale. Et il va d'ailleurs recevoir dans son atelier à Anvers la visite de la reine de France, Marie de Médicis. C'est dire la réputation que peut jouir donc déjà Anton van Dyck au niveau des cours royales, aussi bien dans son propre pays, mais aussi, bien sûr, on a vu avec l'Angleterre, mais aussi avec la France. Van Dyck, bien sûr, est un fervent catholique, mais néanmoins, il accepte de travailler pour le prince d'Orange, qui est de confession protestante, et c'est ainsi qu'il va se rendre en 1631 à La Haye, où il va réaliser, bien sûr, plusieurs peintures et des portraits, toujours en particulier. Il va commencer aussi, là c'est à la mode de l'époque, à s'orienter vers la gravure. Et là aussi, il va bien sûr montrer tout son talent. Il va rester quelques mois donc aux Pays-Bas, et puis il va repartir cette fois en Angleterre, pour rencontrer le successeur de Jacques Ier, Charles Ier, donc successeur de Jacques Ier, Stuart, il va rejoindre Charles Ier d'Angleterre, qui est en fait le petit-fils de Marie Stuart. Charles Ier d'Angleterre, c'est un roi passionné par les arts et la peinture en particulier. C'est un roi de grande culture. Il aime faire venir dans sa cour les peintres les plus réputés d'Europe et naturellement Van Dyck en fait partie. Charles Ier aurait d'ailleurs bien aimé que Rubens lui aussi vienne à sa cour, mais Rubens est non seulement un peintre bien sûr réputé, mais il exerce aussi une mission de diplomate et Rubens parcourt en particulier l'Europe. Van Dyck lui n'a pas cette charge de diplomate et donc il est un peu plus disponible. Il reste donc auprès du roi Charles Ier et le roi est tellement satisfait du travail de ce peintre qu'il le nomme, et c'est un titre, c'est lui qui a créé ce titre pour Van Dyck, peintre principal de sa majesté. Ce qui lui permet bien sûr aussi non seulement d'avoir un beau titre de référence, mais de recevoir une pension qui est plutôt généreuse.
Flikkert zacht en ik zie de kleurenpracht in een film noir. Ik had nooit verwacht dat deze nacht me zo veranderen zou. Op dit moment koester ik intens. Hierop heb ik al veel te lang gewacht. En ik wil met jou sterren zien. De kleine beer en de grote beer misschien. Ik wil met jou dansen op de maan. Een foxtrot of een tango, vind je dat zo abnormaal? Ik heb twee linkerbenen en onrustige genen. Toch blijf ik in de maat. Geen blik van jou laat mij nog koud. Ik schater als jij lacht. 30 jaar was ik op zoek. Ja, maar nu is het raak. En ik wil met jou sterren zien. De kleine beer en de grote beer misschien. Ik wil met jou dansen om de maan. Het foxtrot of een tango, vind je dat zo abnormaal? Thank you.
Frémout, Sterrenzin, voir des étoiles. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc Anton van Dyck, peintre flamand. Et donc van Dyck, qui est en Angleterre, il est particulièrement prisé par le roi Charles Ier, qui l'a nommé non seulement peintre principal de Sa Majesté, mais aussi il l'a nommé chevalier. Ce qui lui permet bien sûr de recevoir une pension plutôt agréable. Il reçoit d'ailleurs dans son atelier régulièrement la visite du roi Charles Ier, qui aime bien voir travailler l'artiste. Le roi Charles Ier est un homme qui aime particulièrement les arts. Il fait venir dans sa cour de très nombreux peintres d'Europe. Il aime s'entourer donc de grands artistes à la solide réputation. Van Dyck, d'ailleurs, aura une grande influence sur la peinture anglaise, même bien au-delà de sa mort. Mais néanmoins, Van Dyck n'aura jamais formé de peintre anglais, puisque Van Dyck faisait venir autour de lui des disciples de Flandre et des Pays-Bas du Nord. Il n'a jamais, donné de formation à de jeunes peintres anglais. Évidemment, malheureusement, en Angleterre, ça bouge. Il y a des contestations, des révoltes. Une guerre civile, d'ailleurs, ne va pas tarder à éclater. Le roi Charles Ier est particulièrement contesté au sein de son royaume. Aussi, Van Dyck, alors, quitte-t-il l'Angleterre, peut-être pour sa sécurité. Il retourne à Anvers en 1634, où alors il est élu, cette fois, comme doyen de la guilde Saint-Luc. Néanmoins, il est attaché, en particulier à l'Angleterre, et il ne va pas tarder à retourner à Londres, où là, il va épouser Marie Ruthven. 1638.
Denk jij nog wel eens aan mij? De souvenir. roos en een ring. Het ging voorbij na Dolce Vita, blijft een herinnering. Door jouw gebaar veranderde mijn leven zo. Wij voor elkaar, je hebt mijn hart veroverd. Helemaal betoverd door jou. Helemaal betoverd door jou.
C'est sans doute la version française de cette chanson, la Dolce Vita, qui vous est interprétée ici par Rudy Mentz. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons aujourd'hui Anton van Dyck, célèbre peintre flamand. Alors Anton van Dyck, eh bien, il épouse en 1638 Marie Rudvent. Alors ce mariage, bon, van Dyck, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être plutôt bel homme. Il avait une maîtresse officiel, on va dire, il n'a pas dû manquer de conquêtes féminines sans aucun doute. Et puis tout d'un coup, à 39 ans, il décide de se marier. Alors, est-ce que c'était un mariage d'amour? On peut avoir des doutes, d'autant que le roi Charles Ier, eh bien, voulait s'attacher à van Dyck. Il voulait que van Dyck reste définitivement en Angleterre, dans sa cour. Il avait d'ailleurs reçu le titre de citoyen anglais. C'est une chose très rare quand même. Et donc, eh bien, on peut penser que, en fait, c'est le roi Charles Ier qui a certainement organisé ce mariage, puisque Marie Rudvent était une dame de compagnie de la reine. Et donc, on pense que le roi Charles Ier voulait ainsi, en mariant van Dyck à cette dame, il espérait bien que, eh bien, le peintre allait rester définitivement donc en Angleterre auprès de lui. Mais voilà, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme le roi Charles Ier le souhaitait. Van Dyck quitte l'Angleterre et il s'en va donc en France, cette fois en 1640, pour eh bien, là aussi faire une démarche toute commerciale, puisqu'il espère pouvoir obtenir la commande de la décoration de la Grande Galerie du Louvre. Malheureusement, c'est un échec, et déçu, il repart cette fois à Londres, mais il n'y reste pas très longtemps. Encore une fois, il veut revoir Anvers, et donc il retourne peu de temps après à Anvers. Il a la bougeotte, notre peintre, puisque, eh bien, il décide cette fois à nouveau de partir à Paris. Mais là, malheureusement, il tombe gravement malade. Il rentre en toute urgence à Londres. Il est atteint d'une maladie grave. Il ne va pas s'en sortir et malheureusement, il décède le 9 décembre 1641. Son épouse va donner naissance à une petite fille, Justinia Anna, 8 jours avant son décès. Donc, Anton van Dyck disparaît, il avait alors l'âge de 42 ans. Il est enterré dans la cathédrale Saint-Paul de Londres. Malheureusement, sa tombe sera détruite lors du gigantesque incendie de 1666 qui a ravagé une partie de Londres.
Met een bon die ik gisteren won naar een winkel vol met boeken. Ik vraag haar, de jonge dame, helpt je dienstig mee met zoeken? Als ik dan vind waarvoor ik kwam, kan ik rustig ademhalen. En aan de kassa hoef ik zelfs geen euro te betalen. Ho, 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 ho. Een nieuw boek dat ligt te wachten, laat ik wachten nog heel even. Even aaien, me verheugen, dat is genieten van het leven. Dat is genieten van het leven. Met een glas op een warm terras, op een zomeravond buiten. Een diner met crème brûlée doet mij mijn ogen sluiten. Iemand speelt een intro, ik begin spontaan te zingen. Drie gitaren, veel gelach en jeugdherinneringen. Ho, 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 ho. Op zo'n avond met mijn vrienden is er heel wat te beleven. Maar dat delen met mijn meisjes, dat is genieten van het leven. Dat is genieten van het leven. Bij elke fietstocht op de dijk hoop ik stiekem op wat regen. De Schelde wordt er mooier door en ik kom niemand tegen. Met zoveel ruimte rondom mij heb ik plaats voor mijn ideeën. Mijn gedachten zijn zo vrij als het water en de regen. Ho, 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 ho. En hier sta ik dan te kijken op het einde van de dag. En ik denk dat ik thuis zal zeggen, je raadt nooit wat ik net zag. Dat is genieten. Het einde van de dag. En ik denk dat ik thuis zal zeggen, je raadt nooit wat ik net zag. Dat is genieten van het leven. Dat is genieten van het leven.
Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3, votre radio locale.
Et vous êtes à l'écoute de l'émission donc L'Heure Flamande. Et aujourd'hui, nous évoquons le peintre flamand Van Dyck. Alors, Van Dyck est décédé, donc il n'avait que 42 ans. Que peut-on retenir de ce grand peintre? Eh bien, tout d'abord, c'est un homme qui a une immense influence sur l'école de peinture anglaise, même s'il n'a pas formé directement des peintres anglais, mais il en a marqué particulièrement cette école par le classicisme. Et beaucoup de peintres anglais se sont inspirés des travaux de Van Dyck. Van Dyck, eh bien, c'était aussi un homme qui était très attaché à sa terre flamande. Il revenait régulièrement à Anvers en particulier, puisqu'il a même pas, il a pas accepté de vivre à Bruxelles malgré les titres que la reine, l'infante Isabelle lui avait donnés. Il revenait régulièrement à Anvers, non seulement pour ses affaires, mais aussi il était très attaché à sa famille, en particulier à ses frères, ses sœurs. Il s'est même occupé de sa fille naturelle, Marie-Thérèse, dont il va subvenir tout au long de sa vie à ses besoins. Donc c'était un homme qui était à la fois très humain, très courtois, qui savait qui il était. Il avait des relations importantes. Il était aussi un commerçant. Hein. C'était un grand artiste, évidemment, mais c'était pas un artiste enfermé dans sa tour d'ivoire. Bien au contraire, il allait au-devant des gens, les rencontrer. Et il s'est beaucoup, bien sûr, inspiré pour faire les portraits des nobles, des gens de pouvoir, des bourgeois. Et c'était aussi une façon, à l'époque... cette bourgeoisie, de ce, quand on disait se faire le portrait, c'était aussi une façon aussi de montrer leur puissance, puisque être peint, avoir son portrait dans sa maison, et eh bien évidemment, ça donnait aussi beaucoup d'importance. Voilà, l'émission touche à sa fin. Eh bien, je ne peux que vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus. À bientôt.
Muziek wil ik altijd om me heen. Dus vraag ik nu aan Ment, toelaat me niet alleen. Ik wil je horen op de fiets of in mijn cabrio. Zou het geen idee zijn, Ment op de radio. Zo kan ik de top 10 en elk zondags interview. Toch volgen op recepties en op elke barbecue. Zelfs hoog in de Ardennen, in een bungalow. Dat zou toch moeten lukken, met Ment op de radio.
Wij willen Ment op de radio. Dat is voor ons het droomscenario. En als het kan, het liefst in stereo.
Vlaamse liedjes wil ik horen in mijn bed. 'S Ochtends in de douche en 's nachts op het toilet. Boven op het dak